Chapitre 5. Marie. Au téléphone, sa mère lui a dit « Je t'en prie, Marie, cette fois-ci, trouve une tenue convenable. Pas besoin d'être devin pour comprendre. Tu t'es habillée n'importe comment en mariage de Laurence. Par pitié, ne récidive pas à celui de Bérengère. » C'est difficile d'être la brebis galeuse de la famille. Ses deux sœurs ont hérité de leur mère un sens inné de l'élégance. Elle est la seule à n'avoir pas été touchée par la grâce. « Ma chérie, comment fais-tu pour dénicher des tenues pareilles? Je t'ai pourtant élevée comme tes sœurs. » Marie ne sait pas s'arranger. Marie est toujours mal fagotée. Marie s'habille comme l'as de pique. C'est ce qu'ils disent tous. Dans la famille, l'élégance vestimentaire est un devoir moral. Mais cette fois-ci, elle s'est promis d'être irréprochable. Sa tenue est prête depuis des semaines. Petite robe noire, escarpins assortis, joli sac à main rose en forme d'arrosoir, original, charmant, plein d'humour. Elle a cédé sans broncher aux injonctions de sa mère. Elle portera pour l'occasion le collier de perles de ses 18 ans qui n'est jamais sorti de son écrin. Elle aura la tenue idéale pour jouer à Miss Chochotte le jour du mariage de sa petite sœur. Elle pensait en avoir fini, mais non. Sa mère au téléphone, encore et toujours. « Tu as pensé au chapeau ?»« Le chapeau. » »« Elle comptait échapper au chapeau, mais tout le monde aura un chapeau, » dit Madame Chloé. « Il faut faire comme tout le monde. »« Tu veux que je vienne un de ces jours à Paris et qu'on aille ensemble t'en choisir un ?» Elle sait bien ce que pense sa mère. Marie ne sait pas, n'a aucun goût pour ça. Elle est blessée. Elle dit non, qu'elle se débrouillera toute seule. Madame Chloé n'insiste pas. Toute la semaine, Marie pense à la voix de sa mère, lointaine, inquisitrice, à l'autre bout du fil. « Tu veux que je vienne un de ces jours à Paris ?»« Non, maman, je ne veux pas. Je vais m'appliquer. Je ne vais pas me tromper. Tu seras contente, tu verras. » Cette belle assurance l'abandonne lorsque, le samedi suivant, elle se retrouve seule à l'espace chapeau des galeries parisiennes. Marie est démunie, paralysée. Partout, des femmes chapeautées prennent la pose en scrutant leurs reflets dans de hautes psychées. Ces femmes savent ce qu'il leur faut. Marie, elle, ne sait pas. Des centaines de chapeaux, comment choisir? Elle voudrait tant bien faire. Elle a si peur de se tromper. Elle n'a qu'une envie, fuir cet endroit où elle n'est pas à sa place. L'absurdité de la situation lui donne soudain envie de rire. « Mais qu'est-ce qui te prend, ma fille? Il paraît que tu es intelligente et voilà que tu te mets la rate au courbouillon pour une stupide histoire de chapeau. Tu n'as rien de mieux à faire de ton temps ? » Finissons-en. Passons à autre chose. Alors elle prend une décision. Elle va s'en remettre au hasard en espérant que le hasard fera bien les choses. Le procédé est certes incongru, mais pas moins rationnel que se fier à son propre choix. Cela augmente même ses chances de bien tomber, compte tenu du fait, unanimement reconnu, qu'elle n'a personnellement aucun goût. C'est si simple de choisir au hasard, et tellement plus drôle. Riant de son audace, elle marche d'un pas léger vers le centre du grand salon. Elle inspire profondément, ferme les yeux, tourne sur elle-même, jusqu'à perdre le sens de l'espace. Elle pense « si quelqu'un me regarde, il va me prendre pour une folle ». Elle s'en fiche. Ce ne sera pas la première fois. Elle s'arrête, attend que se dissipe la sensation de vertige, ouvre les yeux en prenant soin de ne pas relever la tête. Elle fixe ses chaussures en marchant droit devant elle. Elle parvient à un présentoir, attend quelques secondes, puis s'autorise enfin à lever les yeux. Elle en a le souffle coupé. Elle rêvait d'originalité, elle est servie. Elle n'arrive même pas à définir ce qu'elle a sous les yeux. Une sorte d'origami de paille rose piquetée de plumes multicolores, le croisement d'un perroquet et d'une sculpture cubiste. C'est un chapeau extrêmement sophistiqué et vraiment peu ordinaire. Ça ira très bien. Elle sera dans le ton et sa mère sera contente. Elle se sent heureuse et soulagée. Elle aime ce chapeau dont le prix exorbitant ne parvient même pas à atténuer sa joie. Depuis l'annonce du mariage, Marie a l'impression que toute la famille la regarde avec un air de pitié, comme si la nouvelle l'avait particulièrement affectée. Elle, ça ne lui fait ni chaud ni froid que sa petite sœur de 26 ans se marie. Elle est heureuse pour elle. Elle trouve son futur beau-frère tout à fait charmant. Très bien, parfait. Laurence s'est mariée à 25 ans, Bérangère se marie à 26, Marie en a 28. Où est le problème? Quelqu'un a dit qu'on faisait la course? C'est le jeu de celle des trois sœurs qui se marie la plus jeune à gagner? On doit obligatoirement passer par la case mariage, sinon on est éliminé? Même si elle s'en moque, elle devine ce qu'il pense. Il la scrute, essaie d'interpréter la moindre de ses réflexions comme une marque de frustration. Il lui trouve mauvaise mine. Elle a beau répondre que oui, elle est un peu fatiguée, c'est normal avec tout le travail qu'elle a au labo et les soucis depuis qu'on a diminué leur crédit. Elle n'entre pas dans les détails, mais bon, elle les prie de croire sur parole qu'en ce moment, la recherche, c'est Sinistrose et compagnie. Il l'écoute d'un air compréhensif. Il hoche la tête en faisant « oui, oui » avec un petit sourire qui signifie « on sait bien qu'il y a autre chose, ma pauvre chérie ». Depuis des mois, chaque fois qu'elle revient passer quelques jours dans sa famille, il n'est question que du mariage de Bérangère. Tout le monde semble passionné par le sujet. Laurence prodigue force conseils, maman participe activement à l'organisation de la réception. Ce n'est pas possible, je rêve, tout ce qui se passe dans le monde, et on peut rester des heures, des jours, à parler de ça. Mais elle n'a guère le choix, en l'occurrence. Si elle n'accorde pas un minimum d'attention à l'affaire, tout le monde va considérer qu'elle laisse éclater sa frustration et une forme d'hostilité à l'égard de sa cadette. Pas question de donner prise à de tels soupçons. Alors elle se force. Elle fait mine de s'intéresser à la tenue des enfants d'honneur, au débat sur le caractère indispensable ou non des assiettes de présentation. Et elle découvre l'existence de cuillères à consommer. Elle n'a personne dans sa vie. Ça n'a jamais été sa priorité. De toute façon, entre les États-Unis, l'Australie et Paris, ça aurait été plutôt compliqué d'entretenir une relation stable. Jusqu'ici, elle a privilégié le travail. Ce n'est pas qu'elle soit carriériste, mais dans un domaine où règne une telle compétition, il faut s'investir à fond si on veut avoir une chance de se retrouver sur des projets intéressants. Alors c'est vrai, ces dernières années, elle a beaucoup travaillé. Ses recherches la passionnent. Elle se rend compte qu'elle n'a pas vu le temps passer. Elle aime les enfants. Elle espère en avoir un jour. Mais elle n'arrive pas à s'imaginer en robe de mariée. Est-ce qu'on est obligé de se marier ou même de vivre en couple? Est-ce que vraiment personne dans sa famille ne peut envisager qu'à 28 ans, elle a autre chose en tête que se marier à tout prix? Le mariage ne l'attend pas. Elle n'y pense pas, tout simplement. Elle a essayé de le faire comprendre, mais ils n'ont rien voulu entendre. Ses raisins sont trop verts, Laurence, naturellement portée à la perfidie. Attends d'avoir 30 ans, on en reparlera. Son père, naturellement porté au pragmatisme. C'est sans doute une question de maturité. Alexandre, naturellement porté à la prendre pour une débile de 13 ans d'âge mental. Ça lui pèse vraiment d'être considérée comme une pauvre célibataire qui prend sur elle au mariage de sa petite sœur, mais on voit bien tout de même que c'est difficile. Malgré tout, elle se dit que c'est important de participer à cette fête. Même si elle a parfois l'impression d'être une étrangère parmi les siens, même si elle a du mal à les supporter, elle a besoin de les retrouver de temps en temps et de passer des moments en famille. Et puis, elle doit avouer qu'elle n'est pas peu fière de sa tenue. Sur la banquette arrière, elle pose la robe bien à plat dans une housse et par-dessus, le carton à chapeau. Elle sourit en tournant la clé de contact de sa Twingo verte, passablement cabossée. À la pause déjeuner sur l'autoroute, elle se change dans les toilettes du restaurant et se maquille dans la voiture en se regardant dans le rétroviseur. Elle est un peu contrariée de constater qu'elle ne peut pas conduire avec le chapeau. Les plumes risquent de s'écraser contre le toit de l'habitacle. Ce serait dommage de massacrer une telle œuvre d'art. Elle arrive juste à l'heure, se gare un peu à l'écart pour mettre son chapeau sans être dérangée. Il y a foule devant l'église. Elle avance, un peu émue, serrant l'anse de son petit sac arrosoir. Elle aperçoit sa mère, se fraye lentement un chemin pour aller l'embrasser. « Marie, c'est bien toi! Quand j'ai vu cette forêt de plumes arriver vers moi à travers la foule, je l'aurais parié. Tu as fait bonne route, ma chérie ?» Marie se sent tout à coup comme une enfant prise en faute. « Tu veux dire que tu n'aimes pas mon chapeau ?» Sa mère, très élégante dans son tailleur rose et crème, la dévisage de la tête aux pieds, lui sourit, soupire et livre sa sentence. « Ma chérie, je t'adore, mais on peut dire que plus tu fais d'efforts, moins c'est réussi. Ce chapeau, c'est... » Nouveau soupir. « Enfin, maintenant qu'il est sur ta tête, on ne va pas en faire une histoire. » Voilà, tout est dit. Son chapeau est affreux, pas besoin d'expliquer ce qui ne va pas, il est affreux, affreux dans l'absolu. C'est tout et c'est comme une banderille plantée dans son cœur. Ce n'est ni la première ni la dernière fois qu'elle subit ce genre de déconvenue. Elle le sait. Chaque fois, il lui faut une journée pour s'en remettre. Elle se trouve véritablement stupide de tenir à ce point à l'avis de sa mère, et pourtant c'est ainsi. La petite fille va pleurer parce qu'elle était fière de son chapeau et que son chapeau ne plaît pas à sa maman. Laurence les rejoint, serre Marie dans ses bras avec précaution, autant que le lui permet le large bord de sa capeline. C'est le moment d'avoir du cran. Bonjour Laurence.
Bonjour ma biche. Tu as fait bonne route ?
Ouais, ouais. Maman vient de me dire tout le mal qu'elle pense de mon chapeau.
Marie, je n'ai rien dit de pareil. Arrête de jouer les victimes.
Maman a dit que mon chapeau est affreux. Tu en penses quoi, toi ? Sa mère pince les lèvres et secoue la tête en faisant... Laurence la regarde gentiment, l'examine en plissant ses magnifiques yeux bleus. Au bout de quelques secondes d'intense concentration, elle laisse tomber...
Ça te correspond parfaitement, c'est tout à fait ton style.
Un bref instant, Marie croit à un compliment. Son cœur vibre de gratitude. Elle voudrait sauter au cou de sa sœur, lui dire merci. Mais Laurence et sa mère se regardent et elles ont en même temps un bref sourire de connivence. Ce qu'elle a osé prendre pour un compliment n'était qu'un sarcasme. Perfide et élégant, comme sa sœur impeccable qui se tient devant elle, aux côtés de son impeccable mère. Son cœur bat des coups douloureux. Je suis trop conne aussi.
C'est tout à fait ton style.
Tout le monde sait que je n'ai pas de style, que j'ai des goûts de chiottes. C'est congénital, c'est incurable. Qu'est-ce qui me prend de me traîner devant elle à quémander leur approbation ? Pas de compliments pour le vilain petit canard de la famille. Inutile d'encourager la bruit galeuse dans son vice. Elle nous a fait assez honte, pas de fausse joie, pas de compliments, même les jours de fête.
Ça y est, elle a les larmes aux yeux. Quelle catastrophe! Des larmes au mariage de sa petite sœur, alors que tous les membres de la famille se doivent d'afficher une joie rayonnante. Laurence intervient.
Écoute Marie, je ne me moque pas du tout de toi. Il est excentrique ce chapeau, disons, décalé. C'est tout à fait ton style. Il ne faut pas mal le prendre. Je n'ai pas dit ça pour me moquer de toi.
Elle reste immobile, les yeux baissés.
Marie, je t'en prie, arrête de jouer la Mater Dolorosa, ajoute Madame Clouet avec une pointe d'agacement. Ce n'est vraiment pas la peine de te mettre dans tous tes états à cause d'une remarque sur ton chapeau. Tu l'as sur la tête. N'en parlons plus.
Marie se détourne, s'éloigne pour maîtriser son émotion. Elle entend sa mère dire à Laurence «
C'est incroyable d'avoir à ce point les nerfs à fleur de peau. Si elle acceptait quelques conseils de temps en temps, on n'en arriverait pas là. »
Elle court s'enfermer dans sa voiture un moment. Cette fois-ci, elle ne fait pas attention aux plumes qui s'écrasent contre l'habitacle tandis qu'elle cherche, dans le fouillis de la boîte à gants, un paquet de mouchoirs en papier. Il lui faut 10 minutes pour retrouver son calme. De toute façon, elle s'y attendait. Ça l'aurait bien surprise que le chapeau leur plaise. Et pourtant... Elle doit l'avouer, une part d'elle-même espérait un petit compliment. Cette fois-ci, elle pensait être parvenue à se fondre dans le moule, dans le clan.
Ma pauvre fille, tu es allée aux galeries parisiennes dans la Cohune un samedi après-midi, tu as dépensé 326 euros, une véritable folie, compte tenu de ton salaire, pour acheter ce chapeau que tu trouvais original et véritablement élégant. Tout ça pour rien.
C'était bien essayé. Mais tu vas encore faire tâche, comme d'habitude.
Elle se dit, reprends-toi, idiote, en vérifiant dans le rétroviseur que son rimmel n'a pas coulé. Tu es chercheur en biologie cellulaire. Tu collabores avec des scientifiques du monde entier. Tu ne vas pas te laisser démonter parce qu'on te dit que ton chapeau est moche.
Elle parvient à retrouver son calme peu à peu, tandis que monte en elle une hostilité faite de tristesse refoulée, d'affection déçue, de mépris aussi. Ils ne l'ont jamais comprise. Ils ne se sont jamais intéressés à son travail. Ils ne l'ont jamais encouragée. Ils sont médiocres. Ils sont mesquins. Ils ne s'intéressent qu'au fric. Ils pensent avoir le monopole du bon goût. Elle a réussi à réprimer ses larmes, mais là, dans la voiture, elle laisse la rancœur la submerger. Un moment, elle est tentée de reprendre la route pour rentrer directement à Paris. Elle n'a plus aucune envie d'assister à ce mariage. Elle en a tellement entendu parler qu'il lui sort par les yeux ce mariage. Elle a déjà la main sur la clé de contact lorsqu'elle se ravise. Ce sera un scandale. Ça va contrarier tout le monde et elle aura droit à 15 jours de harcèlement téléphonique. « Mais comment as-tu pu faire ça à ta sœur, un jour pareil, un jour de joie ?» Et surtout, elle est sûre qu'ils interpréteront sa fuite comme le signe d'une incoercible jalousie. Ça lui fait trop mal que sa petite sœur fasse un beau mariage, alors qu'elle est encore vieille fille. Je l'ai aperçue juste avant la cérémonie. Elle était décomposée. De toute façon, elle a toujours aimé se faire remarquer. Elle ne veut pas qu'on parle d'elle de cette façon, qu'on se trompe à ce point sur la raison de sa défection. Et puis, elle pense à ses neveux. Elle se fait une joie de les voir. Elle n'a pas envie de se priver de ce moment parce qu'on a refusé de lui faire un compliment sur son chapeau. Ce serait trop stupide. Alors elle décide de rester. Elle sort de la voiture et marche vers l'église, portant sa rancœur comme une charge à laquelle elle s'est résignée. Les mariés sont déjà devant l'autel. La messe va commencer. Elle entend quelqu'un approcher, se retourne et tombe nez à nez avec Alexandre, traînant par la main un Adrien aux yeux rouges, sans son costume d'honneur. Alexandre la regarde d'un air ébahi. « C'est quoi la chose posée sur ta tête ? Un pan sorti d'une centrifugeuse ?» Elle pense. « Et toi, du con, c'est quoi le truc que tu as enfoncé là, derrière ? Un balai ou un parapluie ?» Mais ce n'est ni le moment, ni le lieu pour une pareille réponse. Elle s'en voudrait de se battre avec son frère sur ce terrain-là. Elle feint d'ignorer la remarque et chuchote. « Pourquoi Adrien n'est pas en tenue ?»« Il a vomi, je te parle pas de l'odeur. Il faut que je reste avec Hélène pour tout nettoyer, sinon 5 morts par asphyxie un jour de mariage, ça ferait des ordres. Je suis vraiment ennuyée par rapport à Bérangère. » »«
Tu parles ? Du moment que vous êtes là pour les photos ?»
Ça n'a pas l'air d'atténuer la contrariété de son frère.
« Écoute, j'ai un problème avec Adrien, là. Est-ce que tu pourrais le garder avec toi le temps de la cérémonie ?»«
Il ne va pas devant avec les enfants d'honneur ?» Alexandre se racle légèrement la gorge et répond à voix basse.
« J'en ai touché 2 mots à Bérangère, mais elle a préféré qu'il ne se joigne pas au cortège. »
« Il n'a pas la tenue réglementaire, c'est ça ?»
« Ben oui, c'est ça.
Mon petit père est privé de cortège d'honneur parce qu'il n'a pas l'uniforme. » Elle regarde Adrien, qui lève vers elle de grands yeux malheureux, et elle se dit « Quelle conne tout de même !» Elle sait qu'Alexandre pense exactement la même chose, mais qu'il ne le dira pas. Elle non plus ne dira rien. N'empêche, c'est vraiment odieux d'avoir refusé que le petit aille s'asseoir devant pour défiler avec les autres enfants à la sortie. Elle répond à son frère « Pas de problème pour Adrien. » Puis, se tournant vers l'enfant, « Tu viens avec Marie, Boubounet ? Te tracasse pas, mon petit cœur, on va se trouver une place pépère pour passer le temps. » Alexandre la remercie, l'embrasse et file à sa corvée. Quelques minutes plus tard, il revient lui annoncer qu'Hélène et lui vont finalement aller nettoyer la voiture au moulin. « Ça t'ennuierait de récupérer les filles après la cérémonie et de prendre les 3 enfants dans ta voiture ?» Puisque tu as de la place.
C'est l'avantage d'avoir une vieille fille dans la famille. Il y a toujours de la place dans sa voiture.
De toute façon, elle est ravie.